culturel entre la...
Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougo avec vous. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, au sommaire, en cette matinée du mercredi 7 juin 2024, une dizaine de mesures pour réformer en profondeur la justice au Sénégal.
Aujourd'hui, le service public de la justice doit être vu comme un service qui doit satisfaire le Sénégalais. Et c'est ça le plus important.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le patron de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a atterri hier soir avec sa délégation à Ouagadougou au Burkina Faso, autre étape de sa tournée africaine. Et puis, le comité international de la Croix-Rouge suspend son assistance en vivres à des milliers de déplacés dans l'est de la RDC à cause des combats. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé un décret prévoyant de nouvelles mesures drastiques pour reprendre le contrôle de la frontière avec le Mexique. Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie. Et juste après les nouvelles sportives, mais d'abord le journal. Sergei Lavrov a atterri hier soir avec sa délégation à Ouagadougou au Burkina Faso, a annoncé le ministère des Affaires étrangères burkinabé. Le patron de la diplomatie russe va être reçu aujourd'hui par le président de la transition, Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé. Avant le Burkina Faso, Sergei Lavrov était en visite au Congo. Le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré dans son fief d'Oyo, dans le centre, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Nous soutenons l'initiative du président qui vise à organiser une conférence interlibyenne, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Ce qui s'est passé en Libye est une tragédie dont les auteurs sont l'OTAN et ses membres, a dit Sergei Lavrov, ajoutant que la même chose s'est passée en Irak et en Afghanistan, où l'Occident a voulu imposer son mode de démocratie. Avant le Congo, Sergei Lavrov était en visite en Guinée et selon son entourage, il doit également se rendre au Tchad. Au Sénégal, des conclusions issues d'une concertation nationale recommandent une dizaine de mesures pour réformer en profondeur la justice, une des promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, Alexandrine Holoyon.
Parmi les recommandations figure la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, la révision du code pénal, du code de la famille, la limitation des pouvoirs du procureur, la construction de nouvelles prisons, ou encore la digitalisation du service de la justice. Les assises ont préconisé une rupture avec le système judiciaire actuel, hérité de l'ex-puissance coloniale, pour qu'il soit le reflet des valeurs propres au Sénégal et pour que cette justice soit plus souveraine. La justice sénégalaise est inadaptée à bien des égards, inopérante dans d'autres, trop répressive ou inefficace, ont reconnu, selon le rapporteur, la majorité des participants. Ces assises tenues pendant plusieurs jours à Diamniadio, près de Dakar, ont regroupé des professionnels de la justice, des professeurs d'université, des membres de l'opposition et de la société civile. Les conclusions doivent être remises au président Diomaye Faye, qui va décider de la suite à donner à cette réforme.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le comité international de la Croix-Rouge a dû suspendre son assistance en vivres à des milliers de déplacés à cause des combats qui ont provoqué de nombreux déplacements de population. Le point avec Rosine Munesero.
L'annonce a été faite hier par le CICR qui a lancé le 24 mai dernier une distribution d'aide alimentaire en faveur des déplacés à Kanyabayonga. En milieu de semaine dernière, les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont rapprochés de Kanyabayonga sur le front nord dans la province du Nord Kivu. Le CICR avait lancé le 24 mai dernier une distribution d'aide alimentaire en faveur des déplacés à Kanyabayonga. Mais l'organisation humanitaire a suspendu l'opération le 30 mai après avoir porté assistance à environ 29 000 personnes sur un total de 58 000 personnes ciblées, précise dans un communiqué l'antenne du CICR de Goma. Face à des combats qui se rapprochent, de nombreux ménages se sont de nouveau déplacés. Nous sommes inquiets pour ces populations. À chaque nouveau déplacement, elles sont rendues encore plus vulnérables, alerte dans un communiqué Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
9 soldats israéliens ont été blessés hier, dont 2 grièvement, dans l'explosion de munitions sur une base militaire du sud du pays. L'annonce est faite par l'armée israélienne qui dit avoir diligenté une enquête sur cette affaire. Les soldats ont été évacués pour recevoir des soins médicaux dans un hôpital, a ajouté l'armée. Selon la presse israélienne, l'explosion a eu lieu sur une base située dans le désert du Negev, vaste région qui fait en partie face à la bande de Gaza. Le chef de la CIA, William Burns, et un conseiller spécial de la Maison-Blanche, Brett McGord, sont attendus ce mercredi au Moyen-Orient pour tenter de rallier des soutiens à la dernière proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Une source qatarie dit que le patron de la CIA est attendu à Doha pour continuer à œuvrer avec les médiateurs à conclure un accord de cessez-le-feu. Selon le site américain Axios, le conseiller spécial du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGord, lui, est attendu ce mercredi au Caire. Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden a signé un décret hier prévoyant de nouvelles mesures drastiques censées permettre de reprendre le contrôle de la frontière avec le Mexique. Le texte est entré en vigueur à minuit. Jacques Aristide.
Les migrants entrés illégalement sur le territoire américain sont désormais empêchés de bénéficier du droit d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour, ce qui est actuellement le cas. Les demandeurs d'asile seraient à nouveau autorisés à entrer dès que leur nombre tomberait à 1500 par jour, selon la Maison-Blanche. Le décret facilite également les expulsions vers le Mexique, à quelques rares exceptions près. Ces mesures nous aideront à reprendre le contrôle de nos frontières et à rétablir l'ordre dans le processus de demande d'asile, a déclaré le président démocrate. Joe Biden a une nouvelle fois accusé ses adversaires républicains de bloquer toute réforme migratoire en pleine campagne avant l'élection de novembre, où il sera opposé à Donald Trump. Des mesures décriées par ses rivaux républicains comme étant de la poudre aux yeux et contestées à gauche. Pour Donald Trump, Joe Biden a complètement abandonné la frontière sud. Il prétend enfin faire quelque chose au sujet de la frontière, mais en fait, ce n'est qu'une façade, car il sait qu'un débat aura lieu dans 3 semaines, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, en référence au duel télévisé qui les opposera le 27 juin.
Justement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit très préoccupé par le durcissement de cette politique d'immigration américaine annoncée par le président Joe Biden, pressant Washington de reconsidérer cette décision. Les nouvelles mesures vont empêcher nombre de personnes ayant besoin de protection internationale de bénéficier de l'asile et elles se retrouveront sans option viable pour se mettre en sécurité, a commenté le HCR dans un communiqué. De leur côté, les élus de l'Arizona ont décidé d'organiser un référendum autour d'un projet de loi qui ferait de l'immigration clandestine un crime au niveau de la justice de cet État frontalier du Mexique. Ils voudront offrir aux juges locaux le pouvoir d'expulser les migrants clandestins du pays. Ce projet de loi est inspiré en partie de celle du Texas, imitée par l'Iowa et l'Oklahoma. Au Texas, la loi a été suspendue par une cour d'appel fédérale, mais ses partisans assurent vouloir poursuivre le combat jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Joe Biden va rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à marge des commémorations du débarquement de Normandie, puis au sommet du G7 en Italie, a annoncé la Maison-Blanche peu après le départ du président américain pour la France. Il aura l'occasion d'évoquer l'état des lieux en Ukraine et comment nous pouvons continuer à approfondir notre soutien à l'Ukraine, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Jake Sullivan.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le premier décollage avec astronautes du vaisseau Starliner de Boeing sera tenté pour la 3e fois en 1 mois ce mercredi. Cette mission attendue depuis des années représente un enjeu majeur pour le géant aéronautique et la NASA. Le décollage est prévu en Floride à 14h52 temps universel et la météo s'annonce favorable. Les astronautes américains Butch Wilmore et Sunny Williams doivent prendre place à bord de la capsule Starliner placée au sommet d'une fusée Atlas V qui doit la propulser en orbite. Les autorités australiennes ont annoncé l'abandon de poursuites judiciaires contre le réseau social X pour le contraindre de retirer des vidéos montrant une attaque au couteau dans une église de Sydney. Le régulateur chargé de la sécurité en ligne eSafety avait ordonné au réseau social d'Elon Musk de retirer en Australie et dans le reste reste du monde, quelques 65 vidéos audio montrant un prêtre se faire poignarder à plusieurs reprises lors d'un sermon retransmis en direct mi-avril. Ex avait contesté le droit de l'autorité à ordonner un retrait mondial, arguant que le géoblocage des utilisateurs en Australie était suffisant. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Parlons économie à présent, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Après des pluies inférieures à la moyenne la semaine dernière dans la plupart des régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, davantage d'averses seront nécessaires tout au long du mois pour garantir que la mi-récolte d'avril à septembre se termine sur une bonne note, ont déclaré les agriculteurs. D'après eux, les plantations auront également besoin de périodes plus ensoleillées pour aider à lutter contre les maladies et les insectes qui peuvent être déclenchés par un temps humide. Le FMI annonce avoir accepté de débloquer environ 574 millions de dollars d'aide financière à la Zambie pour qu'elle puisse faire face à une grave sécheresse qui a généré des coupures de courant et des pénuries alimentaires. Le FMI explique que Lusaka a accepté de cibler les secours d'urgence sur les plus vulnérables tout en soutenant les efforts d'assainissement budgétaire pour rétablir la viabilité de la dette. Pour terminer, la production pétrolière de l'OPEP a augmenté à 26,63 millions de barils par jour en mai contre 145 000 barils par jour par rapport à avril, car le Nigeria et l'Irak ont chacun augmenté leur production de 50 000 barils par jour et des hausses plus modestes ont été enregistrées en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis selon Reuters. Seul, l'Algérie a réduit sa production en raison de l'entretien des champs pétrolifères.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Neymar a su ses fans et dit avancer dans sa douloureuse récupération.
Blessé en octobre 2023, le Brésilien Neymar a assuré avancer dans sa récupération, une évolution. C'est douloureux, c'est beaucoup de souffrance, mais je suis en train de récupérer, a déclaré Neymar lundi soir à Sao Paulo, en marge d'une vente aux enchères en faveur de son institut. Neymar a été opéré au Brésil en novembre d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche. Il s'est blessé le 17 octobre contre l'Uruguay en qualification pour le Mondial 2026. Il devrait encore manquer le début de saison de son équipe et ne prendra pas part à la Copa América aux États-Unis 20 juin 14 juillet avec le Brésil. Le joueur de 32 ans a quitté en 2023 le Paris Saint-Germain pour Al-Hilal où il gagne selon les médias quelques 100 millions d'euros par saison.
Luis de la Fuente officialisé à la tête de l'Espagne jusqu'en 2026.
La Fédération espagnole de football a confirmé mardi la prolongation du mandat de Luis de la Fuente au poste de sélectionneur de l'équipe nationale jusqu'en 2026. L'officialisation concrétise un accord annoncé en février dernier. Luis de la Fuente et son staff seront aux commandes de la sélection nationale jusqu'en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. De la Fuente a été nommé en décembre 2022, succédant à Luis Enrique, après l'élimination de l'Espagne dès les huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar. Son contrat expirait théoriquement le 30 juin prochain, soit en plein euro, mais comportait une clause de prolongation qui a été activée. Depuis l'arrivée de la Fuente, la Roja a remporté la Ligue des Nations 2023 et s'est qualifiée pour l'euro, où elle jouera dans le groupe B avec l'Italie, la Croatie et l'Albanie.
Et puis premier tour de chauffe pour les Bleus avant l'Euro.
L'équipe de France accueille le Luxembourg pour le premier de ses deux matchs de préparation pour l'Euro 2024, mercredi à Metz. Une semaine à peine après le début du rassemblement à Clairefontaine, les Bleus sont déjà sur le pont et Didier Deschamps va pouvoir mesurer en grandeur, en nature, l'état de fraîcheur de ses troupes au bout d'une longue et harassante saison en club. Le patron des vice-champions du monde ne dispose que d'un laps de temps très court pour peaufiner les derniers détails avant l'entrée lisse dans le tournoi le 17 juin contre l'Autriche à Düsseldorf.
Parlons sponsoring, Manchester City attaque la Premier League selon le Times.
Le club anglais de Manchester City, racheté en 2008 par un fonds d'investissement des Émirats, a attaqué la Premier League et son règlement sur les contrats de sponsoring en dénonçant une possible discrimination le concernant, affirmé mardi le quotidien The Times. En février, la Premier League a durci les règles encadrant les accords de partenariat commercial passés avec des sociétés liées aux propriétaires des clubs ou Associated Party Transactions en anglais.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. Au Sénégal, les assises de la justice se sont achevées mardi. Plus de 300 participants de divers secteurs ont échangé sur plusieurs questions pour changer le visage de la justice, qui a souvent fait l'objet de critiques, surtout en période électorale. La correspondance de Wahani Johnson Sambou.
Un dialogue de rupture, inclusif et participatif. Pendant une semaine, professionnels de la justice et justiciables ont fait un diagnostic sans complaisance des maux de la justice sénégalaise. Même s'il y a eu des désaccords sur beaucoup de points, le consensus a prévalu sur des sujets tels que la révision des codes judiciaires, mais aussi et surtout le remplacement du Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle. Amadou Bambatassé, rapporteur de la commission de la réforme.
La Cour constitutionnelle aura beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de son champ de compétences sera beaucoup élargi, il aura beaucoup plus de pouvoir et elle sera dans l'obligation de juger.
Ces assises qui ont tourné autour de la réforme et de la modernisation de la justice visent à redorer le blason de la justice sénégalaise, mais aussi à réconcilier le justiciable avec le système judiciaire. Pour ce faire, il a fallu écouter les lamentations et conseils des acteurs à travers notamment des échanges directs. Anne-Cécile Colli, greffière à la Cour d'appel de Dakar.
Aujourd'hui, le service public de la justice doit être vu comme un service qui doit satisfaire le Sénégalais. Et c'est ça le plus important. Et ça passe par une approche multi-acteurs. J'insiste sur ça. Le règlement des problèmes de la justice passe par la prise en compte de la chaîne judiciaire. Parce que la justice, c'est une chaîne. Chaque acteur y a sa place et y a son importance.
À noter l'absence de consensus autour de la présence ou non du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature et de la réforme sur l'autorité parentale partagée. Mais les travaux ne sont pas encore terminés. La commission scientifique et de synthèse va prendre le relais jusqu'au 17 juin avant de rendre les rapports au chef de l'État. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Le Gabon prépare la fin de l'année scolaire et académique. C'est une période qui précède celle des concours d'entrée à la fonction publique. Comme chaque année, ils sont des milliers de jeunes diplômés à rêver d'un poste budgétaire. Mais la fonction publique est-elle un gage de réussite sociale? La réponse dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzi.
54 272 agents de l'État en activité, tel est l'effectif actuel de la fonction publique gabonaise. Un chiffre qui représente près de 6% d'une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Attaché de recherche à l'Institut de recherche en sciences humaines, Gilles Dest, 35 ans, fait partie de nombreux diplômés en attente de postes budgétaires depuis 3 longues années.
Nous nous battons non seulement pour servir le Gabon. La rémunération pour nous, c'est une source de motivation. Et aussi, pour mieux faire le terrain, surtout pour nous les chercheurs. Depuis 2021, j'ai été appelé à aller sur le champ sans humain et depuis lors, je n'ai pas été intégré. Donc, je me bats pour ça, mais j'ai déjà tous les documents. Je pense que le dossier est en bonne voie.
Si pour certains diplômés, la fin des études doit déboucher sur une intégration à la fonction publique, pour d'autres, comme Biré, elle ne fait plus rêver.
Je vois que la fonction publique cloisonne ses cadres. Parce qu'il n'y a pas un cadre évolutif dans la fonction publique. Comparé aux structures privées, comme par exemple, je peux prendre les structures privées occidentales. Là-bas, on peut évoluer, on peut devenir peut-être plus que ce qu'on était au départ. Mais à la fonction publique, on est bloqué dans un échelon réduit.
La jeune Kaela, étudiante en licence 1 en économie, a un avis plus tranché.
On devrait limiter les embauches à la fonction publique parce que ça limite les ambitions des jeunes. Nous, jeunes, nous devons être ambitieux afin de quoi ? Peut-être créer des entreprises pour nous pouvoir embaucher des personnes.
Un vœu pieux dans un pays où la fonction publique accueille plus de la moitié des chercheurs d'emploi. La loi des finances prévoit 10 000 postes budgétaires supplémentaires cette année. Une opportunité à saisir pour Christ Bivigou, jeune diplômé.
En fonction publique, on a la chance d'avoir des emplois stables avec des bonnes assurances qui nous permettent que lorsqu'on va aller à la retraite, on va profiter des nos cotisations que nous, on a fait tout le long de notre cursus d'emploi. Parce que même quand on était dans les classes inférieures, nos enseignants nous disaient toujours que l'on vienne ou on ne vienne pas, on sera toujours rémunéré. Donc ça nous prouve déjà que là-bas, tu as la chance que même si tu as une maladie qui t'empêche d'être à l'emploi pendant un mois, tu vas toujours revenir et trouver ton emploi et avoir ton salaire à la fin du mois.
Ces recrutements à la fonction publique gabonaise font exploser le budget de l'État. Les prévisions se situent cette année à plus de 700 milliards de francs CFA contre 691 milliards l'année dernière. Ismaël Obianzi à Libreville pour VOA Afrique.
Sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Les négociations visant à former le premier gouvernement de coalition nationale d'Afrique du Sud sont attendues cette semaine. L'ANC, le parti au pouvoir, a perdu pour la première fois la majorité absolue. Depuis Johannesburg, Kate Barlett rencontre des difficultés et défis auxquels font face les partis politiques impliqués dans ces prochaines discussions. Récit Jacques Aristide.
Malgré le coup dur que son parti, le Congrès national africain, a subi lors des élections générales, le président Cyril Ramaphosa a fait preuve d'humour lors de la proclamation des résultats dimanche soir. Après qu'un responsable de la commission électorale s'est trompé de mot en accueillant les invités à la cérémonie, Ramaphosa a dit qu'il était distingué mais qu'il n'était pas encore éteint, provoquant des rires. Mais sur une note plus sérieuse, le chef de l'État a promis que l'ANC, qui a obtenu 40% des voix, travaillerait avec les autres partis pour trouver un terrain d'entente, alors que les pourparlers en vue de former une coalition démarrent. Depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a dirigé seul pendant 30 ans. Gouverner au sein d'une coalition constitue donc un monde nouveau. En vertu de la loi, les partis ont désormais 2 semaines pour composer un gouvernement que les Sud-Africains attendent de voir avec appréhension. Il y a plusieurs scénarios, indique à la VOA Mélanie Verveude, ancienne députée de l'ANC et diplomate, aujourd'hui analyste politique.
Il existe un certain nombre d'options de coalition. La première est évidemment une coalition formelle avec l'Alliance démocratique et l'IFP.
Mouvement centriste et principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique ou DA a obtenu 21% des voix lors des élections. De grandes entreprises et des puissances occidentales seraient en faveur d'une coalition avec DA qui, selon les observateurs, a réussi dans les domaines dont ce parti est en charge au niveau local. Il est dirigé par John Steenhuisen, un blanc, ce qui pose un énorme problème pour beaucoup en Afrique du Sud en raison de l'histoire du pays, note David Evrat, professeur à la Wits School of Governance de Johannesburg.
Nous devons comprendre que former une coalition avec l'Alliance démocratique, qui est l'opposition officielle, est perçue par certains comme une trahison de la révolution.
L'ancienne députée Verveud est d'avis que ceux de l'ANC qui rechignent à une coalition avec DEA peuvent envisager une alliance, soit avec le parti de gauche radical, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, ou avec le nouveau mouvement Umkhonto Wesizwe ou MK de l'ancien président Jacob Zuma.
Mais bien sûr, une coalition ANC-EFF ou une coalition ANC-MK seraient les solutions les plus troublantes, ce que l'ANC ne privilégie pas comme première option, car elle affecterait les marchés de manière assez négative, d'autant plus que l'ANC est très préoccupée par la stabilité que poserait l'une ou l'autre coalition.
Le parti populiste MK, arrivé troisième, a changé la donne lors de ces élections, même si Zuma a dû démissionner comme président en 2018 sur fond de nombreux scandales de corruption. Zuma est un ennemi juré de Ramaphosa. MK affirme rejeter une coalition avec ce qu'il appelle l'ANC de Ramaphosa. L'EFF de Malema, connu pour ses propos incendiaires, est arrivé quatrième. Ce parti réclame l'expropriation sans compensation des terres, de même que la nationalisation des mines et des banques. Stine Wiesen a qualifié d'apocalyptique une éventuelle coalition ANC-EFF et a promis que DA s'engagerait dans des pourparlers pour tenter d'empêcher que cela ne se produise. L'ANC affirme que le maintien de Ramaphosa comme président n'est pas négociable.
C'est où l'accueil des délégations des 48 pays africains pour un sommet de 2 jours. Le président Youn Suk Yeol a annoncé plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique. La Corée du Sud souhaite saisir cette occasion pour conclure des accords allant de l'approvisionnement minerai critique aux projets d'infrastructure. Davantage avec Blanche Sanou.
Le président Youn Suk Yeol s'est engagé à doubler l'aide publique de son pays en faveur de l'Afrique.
La Corée a décidé de développer un système de prêts et de subventionner plus efficacement en fonction des besoins de chaque pays africain. Et à cette fin, elle augmentera l'aide publique au développement pour la porter à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Afin de faciliter l'entrée des entreprises coréennes en Afrique, un financement à l'exportation d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars leur sera accordé. Sur cette base, nos entreprises vont s'implanter plus activement en Afrique et contribuera à l'expansion des infrastructures durables.
La Corée du Sud est désireuse d'étendre sa coopération avec les pays africains en matière d'infrastructures et d'énergie. Il a cité notamment des projets tels que la centrale géothermique d'Olkaria au Kenya et la construction du système de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud. La Tanzanie a annoncé qu'elle emprunterait 2,5 milliards de dollars à la Corée du Sud au cours des 5 prochaines années sous forme de prêts concessionnels, parallèlement à 2 accords sur l'utilisation des ressources océaniques et des minéraux utilisés dans les technologies d'énergie propre. Des projets salués par Mohamed Oul Ghazouani, président mauritanien et président de l'Union africaine.
Nous notons avec satisfaction la décision souveraine de la Corée de porter l'aide publique au développement à 10 milliards de dollars américains d'ici 2030, soit le double du volume actuel, et de réserver 14 milliards de dollars américains à l'investissement productif dans des secteurs importants comme le commerce, les nouvelles technologies, l'énergie, la sécurité alimentaire, le capital humain et les infrastructures. Je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective.
Le président sud-coréen s'est engagé à contribuer activement aux efforts d'intégration économique régionale de l'Afrique par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, qui a été lancée en 2019. La Corée veut aussi collaborer avec le continent africain pour accéder à ses abondantes ressources minérales comme le cobalt ou le platine, importantes pour les secteurs technologiques allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouedraogo, à la réalisation Sims Loumani. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes VOA Afrique. Amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA.